Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
L'interview sur RDIO, émission que vous pouvez écouter en podcast sur notre site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Axel Lesage. Bonjour.
Bonjour.
Axel Lesage, vous êtes ici donc pour nous annoncer à venir un atelier pratique de l'intelligence collective qui aura lieu le samedi 17 décembre aux Agités du local. Alors, un atelier pratique de l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est ?
Alors ça peut être plein de choses. Là, en l'occurrence, on va pratiquer des outils qui facilitent la co-création de projets. Et la cohésion de groupe, donc je ne sais pas si vous voulez un peu plus de détails encore. Cette journée-là, je l'ai divisée en deux. La matinée sera plus consacrée à la cohésion de groupe. Donc on va faire pas mal de jeux brise-glace et entre autres 3 heures consacrées à un outil qui s'appelle Petite Histoire, Grande Histoire, où l'objectif est vraiment de créer la connaissance de soi, la partager, apprendre à connaître l'autre, et créer vraiment une cohésion, une dynamique de groupe fluide, de confiance et bienveillante. Et l'après-midi, ce sera plus consacré là à la co-création de projets. Donc c'est un mandala holistique. C'est un outil qui facilite vraiment l'échange d'idées. On part des valeurs, des principes globaux du projet. Et ensuite, on définit des thématiques un peu plus spécifiques et on voit quelles actions on va développer dans chaque thème. Et tout ça avec une visualisation collective, des échanges au consensus, etc. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on a vraiment un projet qui est ficelé, cohérent et qui convient entre guillemets à tout le groupe. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est le but est vraiment que tout le monde se retrouve dans ce projet-là. Donc voilà un peu la démarche de la journée.
Alors, vous avez parlé de brise-glace. C'est le premier abordage de cet atelier, c'est-à-dire que il y a la timidité douce et ça passe par des exercices.
Oui, c'est ça. C'est en fait tous mes ateliers, j'en ai organisé là tout le mois d'octobre aux Agités. Quelles que soient les rencontres que j'organise, même au sein d'une entreprise ou pour n'importe quel projet associatif, les projets d'éco-habitat. Quel que soit partout où je vais, en fait, je commence toujours par des jeux brise-glace, justement pour que les gens apprennent à me connaître aussi, mais aussi entre eux. Parce que souvent, les gens, en fait, on s'engage souvent dans des projets et finalement, on se rend compte assez vite qu'on ne se connaît pas si bien que ça ou qu'il y a des petits freins, des non-dits, des choses comme ça. Et les jeux facilitent énormément. Je suis une grande fan de jeux et je trouve que les jeux facilitent énormément la fluidité, la connaissance de soi, la connaissance de l'autre. Et justement, un peu rompre cette timidité et ces blocages qu'on a souvent en rapport avec l'autre.
Vous disiez que vous avez exercé cette pratique au sein d'entreprise.
Alors, j'ai été embauchée, par exemple, à la région Champagne-Ardenne pour animer des ateliers, transmettre les outils. C'est souvent des organismes qui sont un peu de tout ordre. C'est de l'économie sociale et solidaire, des associations, des collectifs autogérés. Le milieu de l'entreprise lambda, entre guillemets, hors économie sociale et solidaire, je n'ai pas encore fait, hormis un restaurant qui est en reconversion pour être un écolieu. Donc ça reste encore un peu du milieu alternatif ou social et solidaire.
Et quel est l'intérêt pour une entreprise d'avoir affaire à vos services ? Ils y voyaient quel gain au sein de leur personnel ?
Il y a énormément de gains très divers en fait. En fait, au sein d'une équipe, souvent il y a justement, comme on disait, donc des blocages, des non-dits. Chacun reste souvent dans sa posture, dans son rôle, dans son statut. Rien que le fait de jouer un petit peu ensemble, ne serait-ce qu'une fois par mois, ça peut tout changer dans une équipe. Après, moi, je peux aussi accompagner plus sur de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, de la recherche de solutions énormément. Donc, c'est vraiment cette démarche-là, c'est utiliser l'intelligence, le potentiel et la richesse de chaque individu pour servir le projet collectif. Donc au sein d'une entreprise, souvent c'est extrêmement riche justement de pouvoir passer au-delà des conflits interpersonnels, des égos, des statuts, pour aller vraiment dans le sens et dans cette recherche de cohérence et d'harmonie pour le projet, pour l'entreprise, etc. Les deux sont pas antinomiques en fait. On peut être bien au travail, on peut être bien avec soi-même, bien au sein de l'équipe et en cohérence avec le projet de l'entreprise.
Ça veut dire, comme ça, innocemment, que non seulement le personnel est là 8 heures par jour ou 7 heures par jour, mais qu'on va essayer d'extraire le maximum de ses capacités mentales pour le profit de l'entreprise.
Alors, formulé comme ça, ça me paraît un peu bizarre. C'est pas du tout l'intention que j'ai. Ça peut être l'intention de la personne qui fait appel à moi, effectivement. Qui se dit comment je vais utiliser le potentiel. Ça peut être vraiment l'objectif. Après, moi, mon intention, c'est vraiment de donner du sens, en fait, au travail et faire que chaque individu peut être épanoui, peut avoir sa créativité utilisée au sein et au service d'un projet quelconque, en fait. C'est vraiment permettre à l'individu d'explorer et d'être nourri et de nourrir les autres et le projet. C'est vraiment, vraiment cette recherche-là que j'ai, oui.
Je reconnais que nous appliquons nous-mêmes au sein de la radio ce petit exercice qu'on appelle la météo, une fois par semaine. Voilà. Et c'est vrai que... Bon, on peut vider nos sacs, on remet les horloges à l'heure, et puis voilà, c'est vrai que c'est nécessaire pour la cohésion de l'équipe. Mmh. Samedi 17 décembre, vous proposez un atelier pratique avec ce thème du jour, faciliter la cohésion de groupe. Hein. Mais ça veut dire qu'à l'avenir, vous allez proposer d'autres thèmes d'atelier aussi ?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai organisé au mois d'octobre un atelier tous les lundis aux agités du local. Et là, on était plus orienté sur l'animation de réunions participatives. Et en fait, à la fin de ce mois-là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'approfondir vraiment sur le côté groupe, la cohésion, et comment ensemble on crée des solutions, on les met en place, on les met en œuvre. Donc c'est pour ça que je propose cette journée-là. Et ensuite, en fonction des demandes, je m'adapte. J'ai un parcours et une passion pour ça qui fait que j'ai quand même une belle palette. Et donc je m'adapte en fonction des besoins, des demandes. Là, j'ai des personnes qui me contactent en me disant « ce sujet m'intéresse, mettez-moi dans votre mailing list et puis quand vous traitez ce sujet-là, je viendrai. » Enfin, donc c'est assez ouvert, c'est vraiment tout autour de l'harmonie entre l'individu, le groupe et la mise en place d'un projet.
Ça vous est-il arrivé de refuser une proposition d'atelier ?
Oui, ça m'est arrivé. Dans de l'accompagnement de certaines associations, par exemple, où si l'objectif n'est pas très clair ou la démarche n'est pas très claire, j'ai besoin que l'association travaille sur son processus avant d'arriver. Parce que c'est une situation assez particulière d'accompagner des entreprises et des groupes et des associations. Et j'ai besoin qu'il y ait un minimum de travail en amont de fait sur la conscience de ce qu'on recherche, de nos attentes, de nos besoins. Sinon, ce serait beaucoup d'énergie, entre guillemets, perdue pour rien. Parce que si les gens n'ont pas conscience de leurs besoins, on ne peut pas les aider, en fait.
Alors, l'organisme ou l'entreprise ou association qui demande vos services doivent avoir un discours clair et une demande claire pour pouvoir avoir accès à votre atelier, à vos ateliers.
Pas pour participer aux ateliers, justement. Je fais les ateliers pour accompagner, transmettre, soutenir, des choses comme ça. Là, c'est plus quand il y a de l'accompagnement, vraiment quand une entreprise ou une association fait appel à moi. Là, c'est soit à moi de l'accompagner pour clarifier ses besoins, soit si je vois que c'est pas clair, qu'il y a des fois il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir, des choses comme ça, là je peux décider de ne pas y aller parce que pour moi c'est trop compliqué et je me sens pas d'y aller. Dans ce cas-là, je passe le relais à d'autres organismes professionnels ou qui seront peut-être plus compétents que moi sur ce thème-là.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour établir ces ateliers ou... D'ailleurs, vous dénommez facilitatrice de projets collectifs. Qu'est-ce qui vous a incité à opérer dans cette branche de métier ?
En fait, je vais parler un peu de mon parcours. J'ai fait un service civique il y a bientôt 10 ans maintenant. même peut-être plus, où j'étais responsable un peu d'une équipe de 8 personnes, en justement en lien avec les responsables de projet, l'équipe, etc. Et ensuite, ça m'a vraiment révélé sur cet élan que j'avais dans l'accompagnement de groupe et l'aboutissement de projet, en fait. De passer de l'idée à l'action, d'accompagner chaque individu. Enfin, y avait vraiment quelque chose qui m'attirait énormément et que j'avais une sorte de facilité aussi. Et donc, j'ai fait un diplôme d'état d'animation pour coordonner des projets. Et ensuite, c'est là où j'ai découvert les outils participatifs, l'intelligence collective et tous ces mots un peu qui sont très utilisés maintenant. Et je me suis spécialisée, en fait. J'ai fait plein de petites formations et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je créais moi-même, que je cherchais, que finalement ça existait ailleurs. J'étais pas la seule à porter ces valeurs-là et ces pratiques-là. Et en fait, là, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, j'ai quitté mon emploi, ma famille, ma maison, j'ai tout quitté. J'ai rencontré mon mari et on a fait 2 ans de Tour de France, en fait, en camion. Donc là, on a découvert beaucoup d'alternatives, beaucoup de collectifs. Et je me suis rendu compte que souvent, les gens étaient très en difficulté, en fait, n'avaient pas les outils, avaient beaucoup d'élan, de motivation, d'énergie. Mais en fait, ça s'épuisait extrêmement rapidement parce qu'il n'y avait pas les outils, il n'y avait pas de méthode. Enfin, et ça m'a rendu en fait très triste. Et je me suis dit que c'était là où je pouvais vraiment jouer quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à accompagner les collectifs avec les outils que j'avais acquis avant, en fait. D'où le nom qui s'est installé, parce que j'ai fait un atelier de co-développement où j'ai parlé de ma situation et les gens m'ont dit mais ton nom, c'est facilitatrice humaniste de projet. Et donc petit à petit, voilà, je me suis lancée et voilà.
Vous disiez avoir parcouru la France, aller vers des milieux alternatifs pour avoir une nouvelle vision peut-être de ce qu'est notre société. Et sur ce parcours, vous avez rencontré Colibri ?
Oui, tout à fait. J'ai rencontré les Colibri. Entre autres, on a travaillé ensemble sur des forums ouverts où j'animais des ateliers. J'ai animé des forums ouverts pour certains groupes de Colibri. Ça a été... En fait, on s'est retrouvés plusieurs fois sur des routes de Colibri. Et on est encore en lien. Oui.
Je ne connais pas trop Colibri, mis à part celui qui se trouve à pas très loin d'ici, mais c'est un réseau qui est très étendu en France, Colibri.
C'est un réseau très très répandu en France. On a eu la chance d'être sur un lieu de woofing pendant la rencontre nationale des Colibris. On était bénévole pour accueillir en fait des représentants de chaque groupe locaux de France. Donc là, ils étaient une bonne centaine. Juste pour représenter chaque groupe. Et chaque groupe, des fois, ils sont une centaine dans chaque groupe. Donc ça peut vraiment s'élever très vite. Et il y a une démarche extrêmement dynamique et cohérente aussi avec ce que je propose, justement, c'est cette question de gouvernance, d'équilibre entre l'individu et le collectif, de faire ensemble, de changement de paradigme. C'est vrai que ça a été que des belles rencontres.
C'est quand même une politique de longue haleine pour évoluer avec ces idées.
C'est toute démarche de changement, ouais, elle prend beaucoup de temps. D'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a des choses que j'ai dû refuser. C'est que des fois, il y a des freins au changement qui sont extrêmement longs à faire évoluer. Et en même temps, c'est tout l'enjeu, c'est tout le challenge, c'est toute la beauté, que ce soit en individu ou en collectif. C'est qu'on a, on n'a pas appris, on a plein de choses à découvrir, à expérimenter, à apprendre. Et c'est pour ça aussi que j'adore ça. C'est que j'adore apprendre, j'adore transmettre. Et moi, j'apprends tous les jours, même dans mon métier, en fait.
Et les groupes auxquels vous avez affaire sont composés uniquement de volontaires dans cette démarche ?
Oui, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que même les ateliers qui sont, entre guillemets, commandés par exemple, la région Champagne-Ardenne, comme je vous le disais tout à l'heure, ils envoient l'information à leur réseau, à leur équipe, à leurs salariés, et c'est vraiment sur une démarche volontaire que les gens participent. Sinon, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer.
Donc, après ce long périple, vous vous retrouvez dans le Diwa. Comment se fait-il ?
Eh bien, on nous a parlé plusieurs fois des rencontres de l'écologie sur notre route. Et on s'est dit, ça a vraiment l'air génial, on va y aller. Donc on y a été il y a 2 ans. On s'est retrouvés embarqués dans l'ambiance, on a été très vite bénévoles. C'était une expérience vraiment fantastique. Et là, l'année dernière, j'étais intervenante et bénévole, justement pour animer des ateliers autour du jeu et du faire ensemble. Et depuis, on a craqué pour la ville, pour l'ambiance, pour tout ce potentiel, cette dynamique de changement aussi qui est vraiment très présente. Voilà.
Pour les prochaines rencontres écologie, vous avez prévu d'être aussi intervenante ?
En fait, ça tombe pile au terme de ma grossesse, donc j'ai décidé de ne pas m'engager. J'aimerais bien y passer, mais je pense que je serai occupée.
Ni par visioconférence. Donc cette journée du 17 décembre, on peut le dire quand même, sera de 45 euros pour chaque participant. Quelle est la raison de cette tarification ? Ça englobe quoi pour votre investissement ?
Alors, la tarification, c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement difficile pendant tout mon parcours. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Les autres ateliers, je les ai faits en don conscient. C'était des ateliers de 2 heures ou 3 heures. Là, c'est vrai que c'est un atelier toute une journée. Ça me prend beaucoup d'énergie aussi. Aussi, le fait que je sois enceinte fait que ça me demande vraiment. C'est pas une forme de concession parce que je le fais vraiment avec plaisir et mon but est vraiment de partager. Et en même temps, je vois bien que j'ai de l'énergie un peu moins pour d'autres choses. Donc voilà. Et donc la tarification, elle englobe plein de choses. C'est le temps passé pour la préparation, le temps d'animation et aussi je passe énormément de temps à faire le compte-rendu. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est permettre aux gens par la suite de pouvoir vraiment... le remettre en place eux en autonomie en fait. Donc le but de pendant l'atelier et après, c'est vraiment de les préparer à ce qu'après ils soient autonomes pour le mener. Donc c'est vraiment une démarche qui me demande beaucoup de temps de prépa, d'animation et de compte rendu. Donc en fait en termes d'heures, j'ai pas pensé à ramener, mais c'est assez conséquent oui. Donc voilà.
Je reviens sur un titre qui paraît sur votre affiche, mobiliser l'imagination collective pour aller vers de nouveaux possibles. Qu'est-ce que c'est l'imagination collective ? Comment pouvez-vous définir ce terme ?
En fait, pour moi, l'être humain, c'est vraiment un être créatif. C'est même presque que ça, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai une vision un peu... La richesse de l'être humain est... complètement... j'ai l'impression qu'on s'imagine même pas le niveau d'imagination qu'a un être humain. C'est vraiment assez incroyable. Et pour moi, c'est vraiment tout ce qui se passe en ce moment, l'évolution de la société, les prises de conscience, etc. C'est vraiment ça, c'est accompagner les prises de conscience, le potentiel de chacun, mais dans une démarche collective. C'est pas séparé en fait. On est tous en interconnexion, on a tous besoin les uns des autres. Et c'est vraiment comment on valorise, on laisse la place à chacun pour que le groupe et la société évoluent dans un sens qui corresponde au plus grand nombre, ou enfin qui soit harmonieux avec chacun.
Axel, les nouveaux possibles pour vous, ça représente quoi ?
C'est un peu tout le potentiel, tout ce qui n'est pas encore inventé et qui n'attend que ça en fait. Voilà.
Et concrètement, cette démarche a permis de conclure à des solutions que vous pourriez nous décrire par exemple en...
En fait, ça, c'est assez vaste parce qu'il y a vraiment des prises de conscience et des évolutions individuelles. J'ai vraiment vu pendant certains ateliers des personnes me dire « Ah, mais bien sûr, mais moi je faisais... » Enfin, vraiment des réflexions où c'est vraiment personnel, presque intime. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça. Et en même temps, des choses très globales, justement, quand on travaille sur des projets de collectif, sur le mandala holistique, entre autres, où ça ouvre une telle dimension sur comment on peut faire ensemble. Et quand on laisse la place à l'imagination collective, comment... En fait, chacun peut vraiment trouver sa place, son rôle. Je crois que j'ai oublié la question.
Je voulais savoir si concrètement ça avait permis de répondre et comment.
D'accord. Oui, donc il y a beaucoup d'évolutions sur des prises de conscience. Et après, sur du concret, justement, entre autres, le mandala holistique, c'est vraiment un outil assez fabuleux qui permet de passer vraiment de l'idée à l'action. C'est-à-dire que bah voilà, on est 5 amis, 10 amis, 15 amis, ou enfin on a cette idée-là. Souvent ça paraît un peu enfin on sait pas par où commencer, ou il y a des conflits presque dès le départ parce que sur la méthode on est divergent, enfin, et en fait c'est vraiment des outils qui permettent de clarifier, oui, mais sur quoi on se rejoint et comment on y va ensemble et comment chacun va trouver sa place et son rôle et comment on va le mettre en place petit à petit, par quoi on commence, etc. Et en fait, ça permet de fluidifier, en fait, vraiment de simplifier la mise en action de n'importe quelle idée, finalement.
Le mandala holistique, est-ce que vous pourriez nous définir, vous rappeler aux auditeurs, parce que certains connaissent peut-être, ce que c'est ?
Oui, alors en fait, déjà je vais parler de la personne qui me l'a transmise, c'est Robina McCurdy, donc qui a écrit le livre « Faire ensemble » et qui a accompagné pendant plus de 30 ans des écovillages et des écolieux, beaucoup tournés autour de la permaculture. Et en fait, la démarche, c'est la première étape, une visualisation, donc une sorte de méditation guidée sur le thème, sur le projet. Donc souvent c'était des écovillages. Moi je le fais par exemple pour accompagner mon mari sur son projet professionnel, donc ça peut être très très ouvert, très vaste. Et donc on commence par ça, une visualisation de là présentement où on en est. Donc on visualise le lieu, les enfants qui jouent, les bâtiments, le jardin, enfin. Et ensuite on revient sur le lieu 5 ans après, 10 ans après, pour voir ce qui devient, ce qu'on apprécie dans le lieu, enfin, des choses comme ça. Et ensuite, chacun, donc une fois que c'est fini, va mettre sur des petits bouts de papier ce qu'il a vu. Mais c'est un mot par papier ou deux mots, c'est vraiment... Donc ça va être, j'ai vu des enfants rire, j'ai vu de la joie, j'ai vu de la danse, de la musique. Mais ça peut être aussi des choses très très précises. J'ai vu un bassin de phytoépuration à tel endroit. Enfin bon, des choses comme ça. Et après, en fait, sur le sol, on dessine un gros mandala avec un petit rond au centre où on mettra les valeurs, un petit rond un peu plus large où on mettra les principes. Et en fait, de chaque du centre vers l'extérieur, on a des thèmes qui vont se retrouver. Donc ça va être l'habitation, la santé, l'alimentation. Enfin là, c'est pour un projet d'écolieu, mais pour un projet d'entreprise, ça va être d'autres thèmes. Des sujets d'entreprise, la communication, l'information, les ressources humaines, enfin bon, ça va être d'autres thèmes. Et donc chacun va positionner son petit bout de papier, mais sans en parler à personne, enfin, il n'y a pas d'échange. Ensuite, il y a vraiment un temps de on explore, on regarde les papiers, où ils sont placés, ce qu'ils veulent dire pour chacun, etc. Et ensuite, il y a tout un travail qui peut être assez long, mais qui est extrêmement important, de consensus, de discussion, de quel mot veut dire quoi, pour qui, etc. Donc on commence par les valeurs qui vont être validées par tout le monde. Et puis petit à petit, on va valider ensemble tout le projet, en fait.
Je voulais savoir, est-ce que l'imagination actuellement dans notre société est-elle préservée ou alors est-elle combattue ?
Eh bien, on va dire que... Actuellement, on va dire, enfin, c'est même un peu passé maintenant. C'est effectivement, on ne favorise pas la place de l'imagination et de la créativité de l'être humain. Et en même temps, avec ces trois dernières années de parcours, de voyages en France et de rencontres, en fait, c'est vraiment du passé. Au présent, il y a énormément de choses qui sont mises en place, qui se développent et qui accompagnent justement. Cette retrouvaille avec l'être créatif qu'on est tous.
Et comme ça, une question globale, êtes-vous optimiste ou pour l'avenir de notre société ?
Ça dépend des jours.
Qu'est-ce qui vous entendriez, qui vous rendrait optimiste, par exemple ?
C'est de voir que chacun... je fais beaucoup de rencontres, vu que je suis quand même relativement récemment arrivée, donc c'est des nouvelles personnes. Ce qui me rend optimiste, c'est de rencontrer plein de gens qui sont dans cette démarche-là, en fait, qui sont sur le chemin. C'est loin d'être abouti. De toute façon, on est tous sur le chemin. Mais chacun à sa hauteur, sur sa direction, prend des petites prises de conscience, prend des décisions qui vont faire changer justement un petit peu, petit à petit, tous ces freins, tous ces blocages, toutes ces fermetures. Je trouve qu'il y a énormément de gens et de plus en plus qui s'ouvrent. Donc ça me rend un peu plus positive, oui.
Alors, on va revenir aux choses pratiques. Pour les personnes qui seraient intéressées de venir à vos ateliers, votre atelier pour l'instant, les places sont limitées à 10 personnes, donc, et les coordonnées pour vous joindre sont...
Alors, mon adresse mail, axl.lesage, tout attaché avec un seul S, @laposte.net, et sinon, par téléphone au 06 63... 53 21 02.
Très bien. Parce que là, bon, c'est une parenthèse. Je vois Colibri Naxou, ça c'est une autre adresse.
Oui, c'était mon ancienne adresse.
D'accord. Donc, peut-être qu'on pourrait essayer de modifier ça pour la diffuser sur notre page. Hein, oui. D'accord. Voilà. Bien, écoutez, facilitatrice, vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez suivi des études. Hein, on peut les rappeler peut-être
oui.
Quelle formation vous aviez eue?
Alors, j'ai passé un DEGEPS. Pour ceux qui sont dans le milieu de l'animation, ça parle souvent, mais sinon, c'est un gros charabia. C'est un diplôme de 2 ans où je me suis spécialisée sur l'accompagnement de projets, le développement de territoires et de réseaux. Et ensuite, j'ai fait d'autres formations sur l'accompagnement de projets d'éco-villages et d'éco-lieux. Et une autre formation, deux autres formations avec les SCOP, l'orage et le pavé, où là, c'est plus la démarche participative. Oui, voilà.
Mis à part vos ateliers, vous avez envie de faire quoi d'autre dans le DIWA?
Eh bien, comme je le disais, je suis en pleine grossesse et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. Et là, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en plus. Enfin, de toute façon, ce côté humain, accompagner le développement de l'être humain, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc là, en fait, je lis énormément et je me passionne et je participe à des ateliers vraiment sur ce sujet-là, l'accompagnement de l'être humain. Mais donc là, ça commence très très tôt. Voilà.
Vous aurez un peu de musique dans votre atelier?
Pas spécialement.
Non, pas spécialement. Vous avez déjà pratiqué de la musique, enfin, utilisé de la musique pour vos ateliers?
Eh ben non.
Non, non, c'était une question incidente comme ça, juste pour savoir si on pouvait mettre une illustration sonore pendant l'interview. Mais bon, c'est pas nécessaire. Très bien. Eh bien, écoutez, Axel, je vous remercie d'être passé à notre studio et je vous souhaite une bonne soirée et puis un bel avenir en tout cas.
Merci beaucoup, à bientôt.
Interview. 1, terre.
Okay, the bird.